Bonjour à toutes et à tous. Comment a été votre semaine? Qu'est-ce que vous avez vécu avec le Seigneur? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Et comment vous sentez-vous maintenant? Là où nous en sommes, je suis convaincu, et comme nous l'avons aussi demandé à Dieu, je suis convaincu que Dieu veut nous parler. Et de nos jours, il est répandu de parler de followers, de personnes qui suivent d'autres personnes, telles que des célébrités, des personnes que nous admirons, des personnes influentes. Et la popularité de quelqu'un aujourd'hui se mesure, entre autres, au nombre de ses followers, de ses abonnés. Soit dit en passant, « follower » en anglais peut signifier aussi « disciple ». Cependant, je ne pense pas que beaucoup des followers modernes iraient jusqu'à dire qu'ils sont des disciples de telle ou telle personne. Mais en ce qui concerne les chrétiens, suivre Jésus implique d'être un ou une de ses disciples. Et nous commençons ce dimanche par une série de prédications sur le thème « Suivre Jésus ». Dans le cadre général du thème de l'année, cherchons Dieu et nous vivrons. En juin dernier, nous avons déjà fait une première série sur le fait de chercher Dieu à travers Jésus. Jésus qui est l'image parfaite de Dieu. En nous posant la question suivante, qui est Jésus? Qui est vraiment Jésus selon les évangiles? Cherchons Dieu et nous vivrons. Et c'est vrai, si nous cherchons Dieu en regardant à Jésus, en croyant en lui, nous obtiendrons la vie éternelle. Et en quoi consiste alors la vie chrétienne sur terre, si ce n'est de suivre Jésus jusqu'à notre dernier souffle? Et je vous propose d'écouter le texte d'aujourd'hui, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Et je ne sais pas s'il faut peut-être cliquer pour que ça puisse fonctionner, que nous puissions écouter ce texte ensemble, si ça fonctionne.
Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit à Pierre, suis-moi. Pierre se retourne et voit derrière lui le disciple que Jésus aime. Pendant le repas, ce disciple s'était penché vers Jésus. Il lui a demandé, Seigneur, quel est celui qui va délivrer? Pierre voit ce disciple et demande à Jésus, Seigneur, et lui, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Jésus lui répond, si je vous délivre jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Alors on a raconté dans la communauté que ce disciple n'allait pas mourir. Pourtant Jésus n'avait pas dit, il ne va pas mourir, mais il avait dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres en les écrivant.
Juste avant le repas, Pierre et ses compagnons viennent de faire une pêche extraordinaire. Et ils savent qu'ils le doivent à Jésus, qu'ils revoient pour la troisième fois depuis sa résurrection. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'entretien, comme nous l'avons vu dans la vidéo, à l'entretien entre Jésus et Pierre, qui va même concerner, à un moment donné, l'apôtre Jean. Jean qui est l'auteur de notre texte, le témoin de ces événements. Et à la fin du chapitre 20, donc le chapitre qui précède notre texte, Jean énonce son intention. Tout ce qui est écrit dans son évangile est écrit pour que ses lecteurs, pas encore convaincus, puissent croire que Jésus est le Messie et qu'ainsi ils reçoivent la vie éternelle. Et au chapitre 21, Jean montre en quelque sorte ce que cela implique de mettre sa foi dans le Seigneur ressuscité. Les chrétiens ne sont pas seulement des croyants, ce sont des disciples. Et ce texte nous apprend deux choses sur les attentes de Jésus concernant ses disciples. Et cela peut se résumer ainsi pour nous. Aimons Jésus et marchons chacun à sa suite avec son aide. Aimons Jésus et marchons chacun à sa suite avec son aide. Et pour cela, je vous propose de voir d'abord ensemble ce que Jésus attend de nous. Eh bien, il attend de son disciple qu'il l'aime. Jésus attend de son disciple qu'il l'aime. Je ne sais pas si vous étiez comme moi à imaginer cette scène comme un tête-à-tête entre Jésus et Pierre. Mais comme nous l'avons vu et comme le suggère cette mise en scène, il est probable que les autres disciples étaient présents. Il est probable que les autres disciples assistaient à cet entretien. Surtout quand Jésus dit « M'aimes-tu plus que ceux-ci, ceux qui sont là autour de toi ?» Et par trois fois, Jésus va poser cette question « M'aimes-tu ?» Et par trois fois, Pierre répondra à cette question. Et par trois fois, Jésus confiera une mission particulière à Pierre. Trois fois parce que quelques jours avant ce moment, par trois fois, Pierre a renié son maître qui venait d'être arrêté. Lisons ce récit ensemble pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Dans Jean chapitre 18, nous lisons au verset 17, la servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Et puis, Jean interrompt son récit pour raconter l'interrogatoire de Jésus par le grand prêtre. Et pendant cet interrogatoire, au verset 19, voici ce que nous lisons. « Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. » Pour le dire autrement, là où Pierre est en train de renier qu'il ne fait pas partie du groupe des disciples, Jésus, au même instant, ou à peu près, est interrogé sur ses disciples. Vous voyez l'ironie de la situation. Et puis, un peu plus loin, au verset 25, nous lisons la suite de ce reniement. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, un coq chanta. Pierre affirme ce soir-là qu'il ne fait pas partie du groupe des disciples de Jésus. Littéralement, à la question « N'es-tu pas un de ses disciples ?» Pierre répond « Je ne le suis pas. » Pierre renie son statut de disciple, lui qui avait répondu à l'appel de Jésus en le suivant durant trois années. Et ce soir-là, il ne peut assumer. Et quel contraste lorsqu'on pense à ce qu'il a dit quelques heures plus tôt. Et là, je retourne au chapitre 13. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? » en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Quel contraste avec ce que Pierre avait déclaré quelques heures plus tôt. Pierre a échoué. Pierre, l'impulsif, devient Pierre le traître. Alors ce jour-là, si on retourne au chapitre 21, ce jour-là, sur la rive du lac de Tibériade, Jésus ressuscité pose la question, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et j'ouvre une petite parenthèse pour revenir sur une interprétation courante concernant ce passage où Jean emploie deux verbes différents en grec que nous traduisons par « aimer ». Et selon l'avis de beaucoup de spécialistes, et je les rejoins là-dessus, la présence de ces deux verbes différents, philéo et agapao, pour faire un peu de grec, eh bien, la présence de ces deux verbes ne signifie pas qu'il y a une nuance particulière. Vous l'avez peut-être entendu un jour. Mais il semblerait que, selon les spécialistes, il n'y a pas de nuance particulière. Jean emploie en grec des synonymes comme on le ferait en français. Et à plusieurs reprises, dans son évangile, Jean emploie philéo et agapao, ces deux verbes, pour exprimer le verbe aimer. Et il les emploie de manière interchangeable. J'arrête là la démonstration. Pour répondre à Jésus, Pierre n'est pas prompt à se vanter cette fois-ci. Non, il répond simplement « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Évidemment, Jésus le sait, mais Pierre devait encore le confesser, et sans doute publiquement, comme il a publiquement renié Jésus. Et cette question de Jésus mérite une réponse aussi de notre part. Nous n'avons pas forcément renié le Seigneur comme Pierre, mais il se peut que parfois nous ayons manqué l'occasion de parler de celui en qui nous croyons. Parfois, nous avons pu nous comporter devant les autres comme si nous n'étions pas disciples de Jésus. Alors, il nous faut revenir à lui pour demander pardon. Revenir à lui parce que nous n'avons pas été loyaux, parce que nous n'avons pas été loyaux envers Jésus. Et Jésus demande, et maintenant, est-ce que tu m'aimes ? C'est ce que Jésus attend de ses disciples, qu'il l'aime. Et tout à l'heure, quand nous avons chanté, nous avons dit plusieurs fois « Je t'aime, Seigneur ». Et pourtant, il nous est très facile d'aimer d'autres choses plus que Jésus. Si nous devions être honnêtes avec nous-mêmes, très facilement nous aimons d'autres choses plus que Jésus. Jésus qui nous a appelés à sa suite et envers qui nous nous sommes engagés. Alors, est-ce que tu aimes Jésus, comme tu l'as chanté tout à l'heure ? Si nous aimons le Seigneur, comme l'affirme Pierre, nous sommes prêts alors à le servir. C'est en tout cas comme ça que Jésus introduit Pierre dans le service, dans le ministère. Après la réponse de son disciple, Jésus dit « Nourris mes agneaux ». Jésus confie à Pierre la charge de berger, une responsabilité pastorale que Pierre assumera lorsque l'Église naîtra à la Pentecôte. Et par trois fois, Jésus répète qu'il lui confie le soin de son troupeau, le troupeau de Jésus, ce qui est en fait la tâche d'un responsable d'Église. Et en effet, pour prendre un autre texte qui parle aussi de cette image du berger, dans Actes chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul dira de même aux responsables de l'église d'Éphèse, qu'on appelle des anciens, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans sa grâce, Jésus confie son Église à Pierre. Et le service, le ministère, est une autre manière de témoigner de l'amour à Jésus. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous servent l'Église. Certains servent durant le culte, d'autres dans différents groupes, d'autres en tant que responsables de cette Église. Et si nous prenons le temps de nous examiner maintenant, alors demandons-nous, est-ce que nous faisons tout cela par amour pour Jésus ? Ou bien est-ce une routine qui s'est installée, surtout quand nous servons tous les dimanches, par exemple ? Ou bien nous le faisons parce que nous en voyons le besoin. Mes amis, le service du Seigneur prend du sens s'il est motivé par l'amour pour Jésus. Et de surcroît, par l'amour pour les frères et sœurs qui sont unis à Jésus, qui sont unis à Jésus. Le service du Seigneur prend du sens s'il est motivé par l'amour pour Jésus. Et c'est l'occasion encore cet après-midi de sonder nos motivations. Est-ce que je sers parce que j'aime le Seigneur et qu'il m'appelle à le faire ? Ou est-ce que je sers pour une toute autre motivation ? Et l'exemple de Pierre nous rappelle que la responsabilité que nous avons reçue est une grâce. Le service que nous pouvons effectuer dans l'Église est une grâce. Parce que c'est vraiment par pure grâce que Pierre reçoit sa mission. Lui qui a renié le Seigneur ne méritait pas une telle charge dans l'Église. Et pourtant, non seulement Jésus pardonne à Pierre, mais il lui dit trois fois « Prends soin de mon troupeau ». De la même manière, notre service, notre ministère est une grâce. Une occasion de témoigner de l'amour à celui qui nous a aimés le premier. La question de Jésus qui servait à rétablir Pierre est aussi une question pour nous. Jésus attend de nous que nous l'aimions. Et Jésus attend aussi de nous que nous le suivions. Jésus attend de son disciple qu'il le suive. C'est le sens même du mot « disciple ». Et la troisième fois, quand Jésus demande à Pierre s'il l'aime, Pierre éprouve de la tristesse. Peut-être qu'à ce moment-là, il saisit pourquoi Jésus repose la même question, en lien avec son reniement. Mais il s'en remet à l'omniscience de Jésus. « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus n'a pas changé d'avis. Il lui confie ses brebis avant d'ajouter une prédiction concernant la fin de sa vie. Une prédiction que je prendrai le temps de commenter tout à l'heure. Mais pour le moment, regardons à ce que Jésus demande à Pierre. Verset 19, il lui dit « Suis-moi ». Et sans doute, et ça aussi je ne l'avais pas forcément imaginé comme ça, mais sans doute comme nous l'avons vu dans la vidéo, à cette injonction « Suis-moi », Pierre s'est levé et a suivi Jésus. Ce n'était pas simplement une façon de parler. Alors bien sûr, cette parole du Seigneur va au-delà du sens littéral. Quand Jésus dit « Suis-moi », ce n'est pas simplement pour l'accompagner, ça va au-delà. Et Jésus appelle Pierre, comme au premier jour, à le suivre, et cela durant toute sa vie. Et nous avons cette scène étonnante où Jean marche derrière Pierre et Jésus. Alors nous ne connaissons pas vraiment la raison pour laquelle lui-même s'est levé. Mais il est là. Et cela suscite chez Pierre une question. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Puisque Jésus sait tout et qu'il vient d'annoncer ce qui attend Pierre, celui-ci s'interroge au sujet de Jean, et sans doute par curiosité. Mais le Seigneur ne satisfait pas sa curiosité. Et par sa réponse, Jésus démontre sa souveraineté. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. Pour chacun de ses disciples, Jésus a prévu une mission particulière. Alors, il est vrai que Pierre et Jean seront amenés à servir ensemble, comme nous le raconte Luc dans le livre des Actes. Mais au bout du compte, cela ne concerne pas Pierre, cela ne le regarde pas. Ce qui compte, c'est que Pierre suive Jésus. Toi, suis-moi. Et nous aurons l'occasion dans les semaines à venir de développer notre compréhension de ce que signifie suivre Jésus. Néanmoins, nous pouvons dire d'emblée que c'est toujours, de la part de Jésus, un appel personnel. Jésus s'adresse à toi, à toi, à toi, lorsqu'il dit « suis-moi ». Et le suivre, c'est forcément le suivre jusqu'au bout. C'est être fidèle à sa personne, à son enseignement, toute notre vie. Et je trouve qu'à cet égard, l'illustration du mariage est parlante. Le mariage est un engagement à vie. Et c'est beau de voir des personnes rester fidèles à leur conjoint jusqu'à leur mort. De la même manière, être disciple de Jésus est un engagement à vie, et même au-delà. Nous appartenons au Seigneur pour l'éternité. Mais si nous parlons juste de notre vie sur terre, suivre Jésus, c'est pour la vie. C'est lui faire confiance et le laisser nous conduire là où il veut. Notez bien ce que Jésus dit à propos de Jean. « Si je veux qu'il vive. » Il ne s'agit plus de suivre notre volonté, mais de suivre la volonté du Seigneur. Et l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, écrit aux Corinthiens en parlant de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 15 chapitre 5 verset 15. Et s'il est mort pour tous en parlant de Jésus, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous avons dans ce verset une description de la vie chrétienne, une vie qui n'est pas pour nous, mais une vie qui est pour Jésus. Nous lui sacrifions tout à lui qui a sacrifié sa vie pour nous. Et il a sacrifié sa vie pour nous alors que nous ne le méritions pas, alors que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes indignes. Et lorsque Jésus dit « suis-moi », c'est un appel pour toute notre vie, qui concerne tous les aspects de notre vie. Avant de connaître Jésus, nous vivions pour nous-mêmes. Mais après l'avoir connu, les choses sont radicalement différentes. Nous cessons, ou nous essayons en tout cas, mais nous cessons de vivre pour nous-mêmes. Nous cessons de vivre pour notre royaume et nous vivons pour le Seigneur et pour son royaume. Et concrètement, cela signifie que lorsque tu vas en cours, lorsque tu vas au travail, lorsque tu es à la maison, tu ne te comportes pas différemment que lorsque tu viens à l'église. Tu ne cesses pas d'être disciple de Jésus en semaine. Cela signifie qu'en dehors du dimanche, tu lis la Bible pour continuer à suivre les enseignements de Dieu. Tu passes du temps à louer et à prier le Seigneur. Tu penses à tes frères et sœurs en Christ et tu pries pour eux. Et tu pries aussi pour ton entourage non-croyant parce que le royaume de Dieu est ta préoccupation première. Et tu saisis les occasions de leur parler de Jésus-Christ. Bien que ce soit un défi quotidien de vivre ainsi, c'est la vie normale d'un disciple de Jésus-Christ. C'est la vie normale d'un disciple animé par l'Esprit de Jésus-Christ. C'est la vie normale d'un disciple qui saisit la grâce de Dieu. Nous avons vu que Jésus attend de son disciple qu'il l'aime et qu'il le suive dès aujourd'hui. Et vous pourriez me dire, oui, mais Philippe, tout ce que tu décris du disciple est bien beau, mais ce n'est pas ce que je vis. C'est même difficile d'être disciple de Jésus tous les jours. Je vous invite à écouter la suite. Parce que Jésus fera en sorte que son disciple tienne. Et comme annoncé, je reviens à la prédiction de Jésus concernant la vie, ou plutôt la mort de Pierre. Revenons au verset 18. « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Jésus appelle son disciple à le suivre après lui avoir annoncé comment il allait mourir pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas une révélation facile à entendre de prime abord. Nous n'aimerions pas, je pense, une telle prédiction à notre sujet. En tout cas, de prime abord. Pourtant, ce que Jésus annonce est tout simplement incroyable. Jésus annonce à Pierre qu'à la fin de sa vie, il tiendra ferme dans sa foi. Il ne reniera pas une nouvelle fois le Seigneur. Et je vous laisse comparer ce passage que nous avons sous les yeux avec un autre passage que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 13, où Pierre était en train de se vanter « Je donnerai ma vie pour toi !» Et de la même manière, Jésus lui annonçait quelque chose « en vérité !» Vous voyez cette même formulation « en vérité, je te le dis !» Et puis Jésus annonce son échec, son reniement. Dans ce cas précis, dans Jean 13, Jésus annonce l'échec de Pierre qui prétendait donner sa vie pour son maître. Et dans l'autre cas, dans Jean 21, Jésus annonce qu'effectivement, Pierre donnera sa vie pour lui. Alors que s'est-il passé entre les deux? Que s'est-il passé entre les chapitres 13 et 21? La croix et la résurrection de Jésus. Voilà ce qui s'est passé entre les chapitres 13 et 21. Avant la croix, Pierre pensait peut-être que suivre Jésus ne dépendait que d'une forte détermination, d'une forte motivation. Il était prêt à donner sa vie et il ne comptait que sur lui-même pour un tel engagement. Mais après la croix, après la résurrection de Jésus, les choses sont complètement différentes. Pierre devra apprendre à dépendre de Jésus à chaque instant et jusqu'à son dernier souffle. Il devra apprendre à ne plus compter sur lui-même, mais entièrement se confier en son Seigneur et son Sauveur. Et en cela, l'annonce de Jésus nous révèle que si Pierre finira par ne pas renier Jésus, ce n'est que par la grâce agissante du Seigneur qui le gardera. La victoire finale au bout du parcours, de notre parcours terrestre, ne revient jamais au mérite du croyant. La part des chrétiens est de suivre Jésus tout au long de leur vie. Et pour ça aussi, ils dépendent de Dieu. Ils dépendent de l'action de l'Esprit dans leur vie. Pierre lui-même écrit dans sa première épître, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre encourage ici ses lecteurs en affirmant qu'ils sont gardés par la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de promesse plus encourageante pour notre marche avec le Seigneur, que de savoir que Dieu nous gardera jusqu'à la fin. Ce n'est pas tous les jours facile. Et peut-être que la fin même sera une épreuve ultime. Mais le Seigneur nous garde souverainement, car nous lui appartenons. nous sommes à lui. Jésus nous a rachetés à grand prix, au prix de sa vie, et ce n'est sûrement pas pour nous abandonner. Alors ne doutons pas de la souveraineté et de la toute-puissance de Dieu. Et encore un verset de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 14, « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. » Pierre ne terminera pas sa vie avec une nouvelle trahison. Jésus l'a annoncé, et effectivement, la tradition rapporte que Pierre est mort martyr à cause de sa foi. Et Jean, qui a survécu à Pierre et qui écrit son évangile après la mort de Pierre, peut confirmer que son frère en Christ est mort pour la gloire de Dieu. Seul le Seigneur peut faire d'un Pierre qui est sûr de lui, mais faible, en un Pierre humble qui tient bon jusqu'au bout. Seul le Seigneur peut faire cela. Nous n'avons pas à compter sur nos propres forces pour arriver jusqu'au bout. Christ a déjà tout payé pour que nous allions jusqu'au bout. Et l'histoire de l'Église est pleine de ces récits où des hommes et des femmes ont gardé la foi jusqu'à leur dernier souffle. Et leur point commun est qu'ils ont été gardés par la puissance de Dieu. Jusqu'au bout. Et peut-être que cette porte représente ce qu'il y a de l'autre côté. Mais jusqu'au bout, ils ont été gardés par la puissance de Dieu. Par son esprit en nous, nous obtenons la capacité surnaturelle d'aimer et de suivre Jésus jusqu'au bout. Encore faut-il laisser l'esprit de Dieu agir. Encore faut-il accepter qu'il nous façonne, qu'il nous corrige. Mais soyons certains que c'est avec son aide que nous y arriverons, que nous parviendrons jusqu'au bout. C'est avec son aide. Et que cela nous encourage pour cette semaine, au moins, avant d'arriver au bout. Que cela nous encourage pour cette semaine, alors que peut-être des défis, des difficultés, des luttes se présenteront à nous. Confions-nous dans le Seigneur chaque matin, chaque soir, à chaque instant. Demandons-lui de nous garder selon la promesse de sa parole. Nous avons besoin de son aide pour tenir jusqu'au bout, jusqu'à cette porte où nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté, si ce n'est que Jésus nous attend. Dans cette époque où suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux est une mode, les disciples de Jésus peuvent se distinguer, car ils suivent Jésus pour de vrai. Ils connaissent les attentes de leur maître, l'aimer et le suivre, quel qu'en soit le prix. Et c'est un appel qui est adressé à chacun, chacune d'entre nous. Et effectivement, aimons Jésus et marchons chacun à sa suite, avec son aide. À travers l'histoire particulière de Pierre, nous nous retrouvons aussi dans la situation où nous avons besoin d'être pardonnés pour nos péchés. Jésus a payé par sa mort sur la croix pour le reniement de Pierre, mais aussi pour tous nos manquements. Et Jésus est ressuscité et peut confirmer « Tu es pardonné, tu es sauvé, suis-moi ». Et cet appel de Jésus ressuscité résonne encore cet après-midi. Et si tu n'as pas encore répondu à cet appel, je t'invite à le faire. Et c'est vrai, cela engage plus qu'un clic, suivre Jésus. Cela engage toute ta vie, jusque dans l'éternité. Et c'est en cela que suivre Jésus est si vital. Suivre Jésus est une question de vie ou de mort. Car sans lui, c'est la mort assurée et la séparation éternelle avec Dieu. Suivre Jésus est une question de vie ou de mort. Et c'est pour cela que dans les semaines à venir, nous continuerons à traiter ce thème. Et j'aimerais terminer par le dernier verset de notre texte, le verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes de qui nous pourrions dire cela ? En réalité, personne d'autre, parce que Jésus est le plus grand. À lui reviennent donc gloire et honneur. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour ce que tu nous as révélé, ce que tu nous as dit encore cet après-midi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce, parce que par ton sacrifice, tu nous as permis de pouvoir nous approcher du Père, d'être entièrement pardonné, restauré, d'avoir cette relation vivante avec le Père, avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette assurance que c'est avec ton aide et par ta puissance que nous irons jusqu'au bout, que nous serons gardés. Et merci parce que nous n'avons pas à craindre le bout du chemin. Tu seras là. Et tu nous permets de pouvoir avoir cette espérance jour après jour. Et dès aujourd'hui, nous voulons te suivre, encore une fois. Nous voulons renouveler notre engagement vis-à-vis de toi. Toi qui as tout donné. Et à notre tour, Seigneur, accorde-nous la force de te suivre et de t'aimer comme tu nous le demandes. Que toute la gloire te revienne, toi qui es le plus grand. Nul n'est comme toi. Et c'est pour cela que nous voulons te suivre. Amen.